André Hernandez, troisième partie de ce 23e Radio Barque. On va rester quand même encore un petit peu sur votre, alors, avec votre casquette de président de cette Comcom. Parmi les compétences, il y en a de multiples, et les gens parfois s'y perdent un peu. Mais il y a le côté social qui existe également.
Oui, alors nous avons un CIAS qui est très important, sur la communauté de communes. Je voudrais simplement en un mot dire combien on doit s'attacher d'abord aux personnes, aux bénéficiaires, aux personnes âgées auxquelles nous apportons des repas. Nous avons construit une cuisine à Lézignan qui fabrique les repas aujourd'hui. Très attachés à ces personnes-là, l'aide qu'on doit leur apporter par ces personnes qui sont des aides à domicile auxquelles je porte un soin très particulier aujourd'hui, en entamant une déprécarisation de ces agents-là, en faisant en sorte de leur payer les intervacations, en faisant en sorte de leur payer les frais de déplacement vraiment au réel. Donc je m'attache beaucoup à la fois aux bénéficiaires, mais aussi aux personnes qui font un métier extraordinaire, qui est ce métier d'aller à l'encontre, ce rayon de soleil qu'elles apportent dans ces foyers chaque fois qu'elles y rentrent et qu'elles y pénètrent le matin.
Et ce qu'on appelle alors le social, c'est normalement la compétence par excellence du département, pas d'une aglo.
Alors le département attribue les plans d'aide, évidemment, mais c'est notre CIAS ensuite qui gère les plannings de toutes ces personnes et qui fait en sorte, évidemment, de répondre à cette demande.
Et le CIAS ou le CIAS, c'est-à-dire le alors ça veut dire un centre intercommunal d'action sociale, c'est l'équivalent du CCAS dans une ville, c'est tout à fait ça. Ça c'est une compétence, comment ça s'articule par rapport à la Comcom?
Alors c'est le CIAS qui le porte, mais évidemment avec des financements que nous pouvons apporter par des aides complémentaires. Par exemple, cette année, pour équilibrer les comptes du CIAS, qui finalement est une compétence qu'on va dire intercommunale, même si c'est porté par le CIAS. Mais nous avons abondé, nous avons dû abonder par exemple 128 000 euros pour pouvoir équilibrer les comptes. Donc vous voyez que c'est l'apport aussi du compte général, des comptes de la communauté qui viennent permettre l'équilibre, parce que nous y tenons, du CIAS.
Oui, d'accord. Donc le département n'y suffit pas, alors, apparemment.
Il ne suffit pas, non.
Oui.
Non. Donc, tout en plus que si on a des politiques comme celles que je vous ai énoncées, de déprécarisation qui augmentent les frais de personnel, si on a des politiques de payer véritablement les intervacations, c'est-à-dire ces 10 minutes, par exemple, qui entre chaque bénéficiaire, ces 10 minutes doivent être prises en compte dans le temps de travail comme dans le paiement. On augmente automatiquement. Et puis nous avons un territoire éloigné, comme je vous disais au préalable. Donc on augmente les déplacements, on augmente les frais. Et donc évidemment, le département est là en très grande partie, je le salue parce que c'est un budget très important pour eux. Mais on voit très bien qu'on est obligé d'apporter une subvention d'équilibre.
Oui, d'accord. Donc une communauté de communes, dans ce cas-là, décide, enfin c'est des décisions politiques que vous prenez forcément au cas par cas, si je puis dire. Ce n'est pas de l'obligatoire, là.
Voilà, on le prend au cas par cas, en conscience, dès lors que le bureau est d'accord et que le conseil communautaire l'est aussi. Nous faisons ces transferts de fonds vers le CIAS, par exemple.
Oui, voilà. Ben, vous avez raison de le faire ressortir, André Hernandez, puisque c'est pas forcément le cas pour toutes les communautés de communes. Ce sont des choix personnels, si je puis dire.
Ce sont des choix, très forts et très humains.
Alors, André Hernandez, il est de tradition dans cette émission, en troisième partie, d'évoquer un petit peu plus l'homme, l'invité, enfin l'homme ou la femme, bien entendu. Vous, professionnellement, vous avez été enseignant.
J'étais enseignant. J'ai commencé à faire pas mal de collèges en tant que professeur de mathématiques. Puis, donc, je me suis installé dans l'ordre à cause du rugby. C'est paradoxal, mais j'ai abandonné la fac parce que je voulais rester dans mon village de Canet où je suis né, où je joue au rugby. Alors, le rugby à ce moment-là avait pour moi une extrême importance. Et donc, j'ai passé le concours d'instituteur que j'ai eu. Et voilà, j'ai exercé cette profession toute ma vie. Et puis, après, j'ai terminé à Lézignan, où j'étais directeur de l'école Marie Curie. Donc, je connais très bien Lézignan, à ce titre.
Oui. Et alors, on va revenir un petit peu, à la fois sur le rugby, et puis peut-être sur le reste également, sur la politique. Mais sur le rugby, donc, vous avez joué, vous avez pratiqué. Bon, dans les années 60, 70, 80, le rugby village avait encore une force qu'il a relativement perdue aujourd'hui, il faut bien le constater. Est-ce que ça vous chagrine un peu de voir ça?
Alors, ce qui me chagrine, c'est peut-être pas tant au niveau du village, où encore il y a cet esprit de maillot que l'on défend, même bon, si c'est pas la même chose, parce qu'avant il y avait un engouement exceptionnel de tous les habitants. En fait, on trouvait autour du stade presque la moitié du village.
Oui, il y avait une sorte de chauvinisme.
Voilà. Mais je dirais que je serais beaucoup plus critique avec le rugby de haut niveau. Je me souviens, moi, très bien de ces clubs de Narbonne, de Béziers, de Perpignan, où il y avait les Catalans à Perpignan, il y avait les Narbonnais ici, il y avait les Viterrois, à l'époque des Spanghero, des Sutra et autres. Je me souviens de ces matchs qui m'ont été exceptionnels. Et aujourd'hui, je me dis, ces équipes-là sont pratiquement faites que d'étrangers, des gens qui ne sont plus du terroir. Ça, pour moi, ça a perdu de l'âme. Mais dans nos villages, on continue, évidemment, avec peut-être pas le même engouement, mais on continue à faire perdurer un petit peu ce qu'on appelle cet esprit de clocher. Et à Cagnet, une équipe, alors grâce à des gens qui s'investissent, qui a du sens, qui a de la valeur, qui a de l'esprit sur le terrain. Et vous savez qu'au rugby, on forge beaucoup l'esprit des gens. Et c'est une excellente école de la vie.
Et ça fait partie, donc, André Hernandez, de cet esprit, alors canetois, que vous voulez insuffler et cultiver.
Oui, d'ailleurs, dès lors que des gens arrivent au village, qui s'y installent, nous nous réunissons chaque année, et je leur dis, faites en sorte de rentrer dans le mouvement associatif du village, participez à la vie du village, profitez de tout ce que nous faisons. Et en même temps, nous devons, évidemment, faire des animations pour permettre cet intergénérationnel et permettre la rencontre.
Voilà, mais le rugby est encore vivant.
Ah, mais le rugby est vivant. Et j'y tiens beaucoup, au rugby. D'ailleurs, on a le stade en plein centre du village, à côté de la mairie. Voyez la connotation que ça peut avoir.
Ah oui, oui, oui. Mairie et puis le stade à côté.
À côté. Je dis qu'il y a trois mamelles dans un village. Il y a la vigne, le vin. Il y a le rugby, et ben on va ajouter la mairie, allez.
Et alors, la politique, donc je disais tout à l'heure, vous êtes toujours au Parti Socialiste. À un moment, quand on s'engage en politique, c'est parfois un déclic ou parfois des circonstances. Comment c'est venu chez vous ?
Écoutez, c'est venu par... certainement qu'on a des convictions attachées à un certain esprit. Moi... l'humain, rendre service.
Oui, puis votre
tout
profession,
ça,
ma profession, un peu,
effectivement, a fait que, et puis bon, je me sentais très bien dans cette famille-là, et puis bon, le jour où quelqu'un m'a demandé de rentrer au conseil municipal, oui, je me suis affiché dès lors comme quelqu'un faisant partie de cette famille que je n'ai jamais quittée. Et d'ailleurs, j'ai un regard critique pour ceux qui le font après.
Qui font quoi ?
Moi, je reste fidèle. Mais qui nous quittent.
Ah, oui,
ils vont vers d'autres familles. Mais vous savez, la vie est faite ainsi.
Oui, chacun est libre. Bon,
enfin... De libre, et puis on peut évoluer, évidemment, aussi.
Oui, voilà. Mais enfin, vous faites partie de ceux qui sont restés sur le pont.
Tout à fait. Même dans des moments difficiles, voilà. Il y a toujours espoir. Mais vous savez, bon, je crois qu'on peut se retrouver dans certaines familles avec des idées, peut-être aujourd'hui, davantage tournées vers l'écologie, vers la défense de la planète. Pour moi, c'est hyper important. Je crois qu'on a à réfléchir ensemble, et peut-être au-delà de tous ces clivages, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui et qui me dirait que je m'engagerai encore plus fort là-dedans, c'est d'avoir des élans vers ça. Quand je vois ces forêts qui disparaissent, ces forêts tropicales, quand je vois ces glaciers qui fondent, quand je vois ces mammifères qui vont disparaître en grande partie, je me dis qu'on a beaucoup à faire pour sauver cette planète.
Oui, donc vous avez cette fibre verte alors qui se développe ou qui s'entretient.
Je me dis qu'aujourd'hui tout le monde doit l'avoir, cette fibre verte, voilà.
Oui. Et alors la politique, le rugby c'est pas un métier. C'est pour vous un loisir. Est-ce que vous avez, André Hernandez, encore aujourd'hui, d'autres loisirs et un temps suffisant pour vous y consacrer ?
Alors, actuellement, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je vous avoue qu'entre la mairie et la communauté de communes, je suis très pris. Bon, ma passion, c'est le catharisme. Je fais souvent des conférences sur les cathares. C'est une passion. Bon, j'aime lire, j'aime me documenter, j'aime la culture beaucoup, j'aime aller au spectacle et puis j'aime beaucoup voyager. Voilà, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai eu la chance de travailler pour Air France pendant les vacances, ce qui m'a conduit avec des groupes dans le monde entier, et j'ai tiré beaucoup de bénéfices, parce que dès lors que l'on voyage d'abord, évidemment, on se cultive, on connaît, et on voit comment vivent les gens, et puis surtout on relativise les choses, et on se dit que quand on voit ce qui se passe ailleurs, bon, on n'est pas forcément malheureux chez nous, ce qui me fait dire quelquefois, dans les exigences des gens, bon, il faudrait peut-être les mesurer.
Et en conclusion, André Hernandez, justement, à propos de voyage, est-ce qu'il y en a un, même si vous en avez fait beaucoup, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué particulièrement et que vous souhaiteriez évoquer ici?
Alors, il y a des sites qui m'ont marqué, hein. La Grande Muraille de Chine, ou rentrer à Pékin, dans l'empire, hein,
du milieu.
Tout ça, ça m'a beau, fortement, ou voir des grandes espaces sauvages, ou aller dans des parcs, dans l'Afrique du Sud ou autre. Mais si je devais désigner un pays, je désignerais Cuba. Tout simplement parce que c'est encore un pays, pour moi, qui restait authentique. C'est-à-dire qu'il n'est pas pénétré par les fast-foods, par etc., tout ce qu'on voit par ailleurs, quelquefois vous choque d'ailleurs. Hein. Je me souviens être pénétré dans un petit pays d'Afrique, arrivé là, me croyant perdu, je me suis senti parce que je retrouvais les grandes chaînes que je vois à Narbonne, que je vois à Perpignan, que je vois ailleurs. Voilà. Mais là, Cuba, c'est un pays qui restait authentique. Et les gens vivent avec peu de choses, mais ils ont beaucoup d'espoir. Et ils ont toujours le sourire, la danse, la chanson, la musique. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Oui, mais là, c'est particulier dans la mesure où c'est une résistance du castrisme à l'impérialisme américain. On pourrait presque le résumer à ça.
Oui, tout à fait. Alors, il y aurait beaucoup à dire, hein, quant à la politique qui est pratiquée. Mais quand on voit l'optimisme des gens, et je vous dis, et puis la musique qui est prégnante partout, et l'enthousiasme, les gens ne savent pas comment ils vont vivre au jour le jour. Et ils se débrouillent sans arrêt, ils sont tout le temps à vos côtés, à vous aider. C'est enthousiasmant, effectivement.
Alors, c'est la leçon d'optimisme, alors, Cuba.
Qu'il faut. Et d'ailleurs, il faut garder l'optimisme. Même si l'avenir est difficile, même si on vit des moments difficiles, il faut garder de l'optimisme parce que demain sera meilleur.
Voilà. Et vous inciteriez les gens à aller faire une cure à Cuba?
Oh, à Cuba ou ailleurs, pas forcément. À Cuba ou ailleurs. Mais il y a tellement à faire dans notre territoire, à venir dans nos corbières. Il y a tellement de beaux paysages un peu partout dans ce département de l'Aude qu'on peut trouver, dans la période actuelle en plus, vraiment bonheur à sillonner nos routes, nos campagnes et nos contrées. C'est vraiment très beau.
Voilà, ben vous êtes un excellent ambassadeur de ce pays, André Hernandez. Merci d'avoir été notre invité pour ce 23e Radio Barque. Les prochains invités, dans quelques semaines, je recevrai la présidente du département, Hélène Sandranier. Mais la prochaine fois, je recevrai Marie Bardet et Sandy Kersi. Alors, l'une est romancière, l'autre est une Narbonnaise d'origine vietnamienne qui a en quelque sorte un rapport évident avec le roman écrit par la précédente. On verra que c'est une rencontre hautement improbable. Je les ai invitées toutes les deux. On en reparlera à propos du roman Babylift. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
Merci, au revoir.